tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions sur la langue française, notre chère langue qui recèle mille et un pièges, chausse-trappe, malice et merveille. Par exemple, pourquoi le premier E du mot femme se prononce-t-il A ? Pourquoi dit-on des chevaux et non pas des chevals ? Pourquoi dit-on grand-mère et non pas grande-mère ? Pourquoi second se prononce-t-il comme s'il y avait un G ? Ou encore, à quoi sert l'accent circonflexe ? Et puis, nous verrons pourquoi nos fautes de français nous donnent parfois l'impression d'avoir commis une faute morale. Et puis, on auscultera également le fameux pronom « yel ». Et vous, quelles sont vos interrogations sur notre langue ? Dites-nous ce que vous ressentez quand vous commettez des fautes de français à l'écrit ou à l'oral. Nos invités vous répondent au 01 45 24 7000, une émission en partenariat avec le hors-série du Point Bien S'Exprimer. Bonjour Camille Pouc-Janaguier.
Bonjour Ali.
Vous remplacez cette semaine Gwenaëlle Boulet. Quel est le menu de votre chronique « Ma vie de parent » ?
Alors ce matin, on ne va pas tous se demander si c'est avec ou sans œufs, mais plutôt pomme ou banane.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Prenons par exemple le son « s »
comme dans « régisseur ».
Comment peut-on écrire ce son en français ? On peut l'écrire « s », « 2 s », « c », « c c'est dit ». SC comme dans science, on peut l'écrire X dans 10 ou 6.
Bruxelles.
On peut l'écrire Z dans quartz.
Ou Aztec.
On peut l'écrire TH dans forsythia. On peut l'écrire STH dans isthme. Ou asthme.
Et ainsi de suite, c'est l'extrait d'une conférence TEDx d'Arnaud Hutt et Jérôme Piron. Bonjour Julien Soulier.
Bonjour Ali.
Vous êtes ancien professeur de lettres classiques, expert au projet Voltaire. En deux mots, le projet Voltaire ?
Le projet Voltaire, c'est une plateforme, alors je vais utiliser un horrible anglicisme, de e-learning. Une plateforme en ligne pour améliorer son orthographe, sa grammaire, mais aussi son expression, son vocabulaire, parce qu'évidemment, bien s'exprimer, c'est aussi bien penser.
Et vous publiez les pourquoi du français sans questions légitimes que vous vous posez sur la langue française. Vous écrivez dans l'avant-propos de votre livre que la langue française se fourvoie en imposant des formes a priori rigides.
Oui, j'aime bien dire ça, c'est en manière de provocation évidemment, mais c'est vrai que quand des enfants ou des élèves me disaient « mais pourquoi on ne dit pas « vous disiez » ouais. ?» Ben, j'étais un peu réduit à cuilla, pour le dire joliment, je restais quoi. Et donc c'est un petit peu ce souvenir de ces réflexions-là, des « pourquoi des chevaux et pas des chevals ?»
Ben oui, pourquoi ma petite nièce n'a pas le droit de dire « des chevals » ?
Ben voilà, ben parce qu'il y a eu toute une évolution phonétique et orthographique qui a fait que c'est devenu des chevaux. Mais c'est vrai que j'aime bien dire que finalement c'est la langue qui se trompe face à la logique. Les enfants, quand ils parlent, sont très logiques. Donc je mourirai, alors peut-être ça nous écorche les oreilles, mais finalement il serait très logique de dire je mourirai, non pas je mourrai.
Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Cerchiglini ? Bonjour, vous êtes linguiste,
bonjour,
universitaire, professeur de linguistique, et vous avez récemment publié Les mots immigrés avec Eric Orsena chez Stock.
Écoutez, je pense comme Julien, il y a deux logiques. Il y a la logique la logique de la langue, qui est une logique historique, qui est une logique d'usage, et puis il y a la logique que l'on veut lui imposer. Et ça fait un rapport dialectique, généralement, c'est à terme, ce sont les enfants qui gagnent. Vous savez, très souvent on dit la faute d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Donc soyons attentifs, comme Julien, à ces vous disiez, à ces vous cheval. Peut-être que dans un siècle ou deux, eh bien, ce sera la norme.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, et vous publiez chez AOC deux livres en un, c'est un opuscule, La guerre des sexes, un point c'est trop, et La grand-mère du français, enfin rendue à la vie. Alors vous écrivez nos grand-mères, vous
savez, Nos grand-mères
véhiculent des valeurs, des jugements de bon goût, répartissent la société entre les bons et les mauvais parlants, valorisent les premiers et méprisent les seconds. Il y a ceux qui se disent et ceux qui ne se disent pas.
Oui, je trouve que c'est important de se rendre compte qu'on a une pratique de la langue en France notamment, et c'est pas le cas des autres pays francophones. On a tendance à porter des jugements selon la façon dont on parle, à s'écouter, à se critiquer. Il y a des gens qui éprouvent vraiment des complexes d'infériorité ou de supériorité. Hein, si j'ai envie de vous corriger dès que vous faites une faute.
Ben là, j'ai fait une faute, ça a dû écorcher certains auditeurs. J'ai dit grand-mère au lieu de grand-mère.
Je pense que c'est votre grand-mère qui a dû vous apprendre la grammaire.
Pourquoi ça écorche les oreilles?
Eh bien, je pense que quand on dit que ça écorche les oreilles, c'est juste la preuve que tout ça n'est que le fruit d'une très longue habitude, et écorcher est un jugement esthétique qu'on plaque sur en fait juste une habitude, une régularité à laquelle on n'est donc pas habitué, ça nous dérange. Donc tout changement, toute évolution potentiellement dérange, trouble, parce que c'est tout notre capital qui est remis en question, qui est bousculé.
Bernard Cerchiglini.
Oui, c'est très curieux, toute nouveauté paraît laide. Oui. Je me rappelle quand nous avons lancé la féminisation, on nous disait mais une rectrice, une préfète, une ministre, comme c'est laid. Il y a toujours, et seulement en français, un jugement esthétique défavorable à la néologie.
Julien Soulier.
Oui, c'est tout à fait vrai, je pense. Et puis, il y a aussi le fait que, finalement, cette langue, nous la sommes appropriée, et peut-être ça représente aussi quelque chose qui est... On aimerait que ce soit un repère fixe, et donc il y a un coefficient de conservatisme sur la langue qui est très fort. Il y a une espèce comme ça de pesanteur ou d'inertie. On aime bien voir cette langue, on aimerait la voir figée, peut-être pour l'éternité, parce que nous la sommes appropriée de cette façon-là.
En fait, je crois que oui, on est tous spontanément conservateurs. Il y a ce capital affectif et surtout cette illusion profonde qui est tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on arrive dans une langue qui semble immuable. Et notamment 20e, 21e siècle, il y a eu très peu de changements. Alors que quelqu'un, un locuteur, Montaigne par exemple, il savait qu'il y avait toutes sortes de langues qui coexistaient. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc on arrive et du coup, tout changement nous paraît vraiment attaquer, vous voyez, agresser un système linguistique. Mais en fait, il faut savoir qu'on est au plus stable de beaucoup de siècles d'évolution et que donc les petites évolutions sont infimes par rapport aux changements incroyables que Julien décrit dans son livre, enfin, qui ont fait fleurir.
Bernard Cerchiglini.
Oui, cette langue s'est d'autant plus solidifiée qu'elle a un rôle politique, qu'elle a un rôle social. Oui. Elle a fondé la nation. Oui. Et donc, ôter un circonflexe à un mot, c'est mettre en cause la nation, la France, la République.
Mais pourquoi ça nous rend malade, cette idée-là de doter un accent circonflexe à un mot?
Ah, ça nous rend malade, et rappelez-vous, les querelles autour de la réforme de l'orthographe, parce que c'est la langue maternelle, c'est la langue de la nation, c'est une langue de littérature, de culture. Michelet dit la France, c'est d'abord la langue. Et donc, nous avons un lien extrêmement fort qui fait que nous sommes, comme dit Julie, tous un peu conservateurs. C'est cette langue dont nous ne voulons pas qu'elle change.
Exemple avec le mot nénuphar. Pourquoi PH et pourquoi finalement ne pas simplifier la langue avec un F?
Mais même pour faire ça, on a une question d'identité qui surgit dans des anecdotes comme ça, mais parce qu'on a intégré, en fait, de façon inconsciente. Quand on apprend à parler, on réfléchit pas à toutes les règles et les raisons profondes, qu'elles soient historiques, qu'elles soient phonétiques ou sémantiques, on réfléchit pas du tout, on intègre, on ingère tout ça. Et après, ça devient d'une solidité incroyable, et c'est profond, et c'est comme un repère qu'on vient, en effet, déstabiliser, qui est très perturbant psychologiquement, c'est un biais cognitif qu'on a tous.
Regardez cette solidification. Nénuphar, c'est toujours écrit avec un F chez Flaubert, chez Proust. En 1932, l'Académie française se trompe, le rapproche de Nymphéa, l'écrit avec PH. Quelques années plus tard, pour rendre service à l'Académie, nous proposons de revenir à F. Tollé général. La langue s'était complètement gelée et il est hors de question de revenir. Une guerre pour Nénuphar, en quelque sorte.
Vous êtes pour le F ou le PH de Nénuphar autour de la table?
Non, mais moi j'ai grandi avec PH, ça me perturbe aussi. Je pense, Alix, c'est la faute aux dictées, c'est la faute à tout ce qu'on a fait qui a engrangé un système de récompense affective de la part des parents. Oui, c'est comme ça, mon chéri, de la part des maîtres. Oui, ah, bravo, vous avez 20 sur 20. Moi je viens de là. Donc j'appelle là. Ah, comment ça, F? Mais non.
Et on accueille Louise Cuneo. Bonjour, Louise Cuneo.
Bonjour Ali.
Vous êtes la rédactrice en chef de l'excellent hors-série du Point, Bien s'exprimer. Alors vous rappelez dans votre édito que des chercheurs américains ont prouvé qu'il suffit de 7 mots pour que les origines d'un locuteur soient démasquées.
Absolument Ali, et c'est ce qui fait que ça peut avoir des conséquences dramatiques de mal s'exprimer, notamment dans l'univers professionnel par exemple. Il y a eu un sondage Ipsos pour le projet Voltaire qui explique bien que 3 employeurs sur 4 jugent rédhibitoires les difficultés à l'écrit de leurs salariés, et même 4 sur 5 ne les tolèrent pas à l'oral. Ce qui fait que vraiment, il faut, on se doit de bien s'exprimer alors même que la norme évolue, comme on vient de le dire.
Bernard Cerchiglini.
Oui, cette solidification est due aussi à une pression sociale forte. Un CV bourré de fautes d'orthographe et jeté au panier. Et donc, même si nous, en tant que linguistes, nous savons que les règles orthographiques sont artificielles, nous pensons aussi qu'il est bon de maîtriser l'orthographe, car c'est un problème social. Et d'où l'importance du projet Voltaire, par exemple.
Julien Soulier.
Oui, avec le projet Voltaire, il y a quelques années, nous avions mené une étude avec une doctorante en sociologie sur l'impact des fautes ou des erreurs chez les recruteurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, le lexique employé par ces recruteurs, en fait, avait tout à voir, sauf avec l'orthographe. C'est-à-dire, l'orthographe, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui était en dessous, la partie immergée, eh bien, c'était que les recruteurs en induisaient à tort ou à raison, à partir de 2-3 fautes d'orthographe dans une lettre de motivation, eh bien, que la personne n'était pas motivée, était légère, était peu sérieuse. Voilà. Donc, tout un ensemble de défauts, de défaillances, qui, en fait, avaient tout à voir, sauf avec l'orthographe.
Louise Cunéo.
Oui, il y a des études qui ont montré que c'est pas seulement dans la vie professionnelle que cela a des conséquences de bien s'exprimer, mais par exemple, des études ont montré qu'un médecin écoute d'autant mieux, inconsciemment bien sûr, son patient, si celui-ci s'exprime bien. De même que le docteur expliquera plus précisément au malade ce dont il souffre, s'il a l'impression qu'il peut être compris. Parce qu'en fait, donc, le bien s'exprimer, ça dit notre condition sociale, ça dit notre niveau de culture scolaire, et ça donne aussi du coup notre degré de respectabilité.
Julie Neveu.
Je crois que j'ai entendu ça aussi pour les applis de rencontre.
Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça aussi.
On pensait à ça. Oui. C'est-à-dire qu'on reçoit
vous
un premier
dans
texto.
Pensées, Julie Neveu.
Et oui, attention. Donc voilà, un texto avec trois fautes et le gars n'est pas...
Mais qu'est-ce qui se joue dans ces accidents de langue? Quand j'écris un SMS, si je fais une faute d'orthographe ou de grammaire, je me sens obligé d'envoyer un SMS correctif avec une petite astérisque pour bien expliquer que je me suis trompé. Pourquoi je fais ça et pourquoi nous sommes nombreux à faire ça?
Parce qu'on est justement pris dans cette sorte de pression et de jugement permanent et qui est vraiment propre à notre culture. Vraiment.
Oui, parce qu'en anglais, on parle de mistake, ça veut dire erreur. Oui. En français, on commet des fautes. Oui. Et ces fautes font penser, ont un parfum de péché, de faute morale.
Oui. Mais bien sûr, on fait des erreurs en mathématiques. Mais on fait des fautes d'orthographe. C'est-à-dire que là, il y a une relation religieuse. C'est un péché. Et donc, nous sommes, nous, linguistes, dans une contradiction, car nous savons que la langue évolue, que les normes sont parfois artificielles, mais aussi nous savons la pression sociale. Et donc, nous devons faire en sorte d'améliorer les méthodes d'apprentissage de l'orthographe telle qu'elle est.
Oui, et en fait, c'est-à-dire, je pense qu'on récolte une fois de plus à la fois plein de règles qui sont parfois un peu aléatoires et qui sont le fruit d'erreurs parfois d'académiciens, enfin, ou d'envie un petit peu snob d'étymologie alors que c'était pas le lieu. Donc il y a eu plein de décisions aléatoires qu'on récolte en héritage avec une langue assez compliquée, avec un grand écart entre l'écrit et l'oral, et ça c'est la grande difficulté du français. Et par ailleurs, on a aussi une histoire de la mythologie autour de la langue française à laquelle Voltaire, par exemple, a beaucoup contribué en parlant du génie, Ribérol qui a parlé de la clarté de la langue française, le sujet, verbe, objet, cet ordre qui serait plus clair. Mais c'est ça aussi, c'est une illusion totale. Enfin, il n'y a pas de clarté. Du moment qu'une langue parvient à communiquer, vous voyez, qu'on parvient à échanger, à se comprendre, alors la langue est claire. Ça veut dire quoi, clair?
Julien Soulier.
Oui, puis il faut aussi, tu le disais, Julie, c'est vrai qu'il faut insister aussi sur le rôle de l'académie au fur et à mesure du siècle. Alors peut-être moins maintenant, au XXIe siècle, mais c'est vrai que la langue, en fait, a été construite plus ou moins par l'Académie française. Et donc, ça a été souvent un pas en avant, deux pas en arrière, selon les siècles et selon les périodes.
Mais vous parlez d'académie, mais qu'est-ce qui, au fond, qui décide de ce qui est juste ou non? C'est pas l'usage qui décide, au fond, Bernard Cerclaigny?
Alors, l'Académie dit qu'elle est greffière de l'usage. Mais historiquement, c'est elle qui a décidé. Elle a été fondée en 1635 pour donner des règles à la langue. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, notamment par son dictionnaire, accompagnée par toute une cohorte de grammairiens, pensons à Vaugelas, Bourg, peu de langues ont été autant corsetées, codifiées que le français. Là aussi, nous sommes tous un peu grammairiens, car à l'école, nous avons eu un enseignement qui provenait de tout cet amoncellement de règles, et c'est une langue grammairienne, d'où le rôle de la norme.
Julie Noveau.
Oui, on a besoin de cette norme. Enfin, je veux dire, c'est difficile. C'est vrai qu'on peut. Il y a eu des excès, je dirais. Il y a eu des excès. Bon, à un moment de ce corsetage, vous avez utilisé corsetage, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y avait une liberté, une créativité et des usages qui coexistaient. Un Montaigne dit chaque usage a sa raison d'être. Et il y avait une femme qui a d'ailleurs beaucoup aidé, une autrice qui a aidé Montaigne à corriger ses derniers essais, qui s'appelle Marie de Gournay, qui elle avait essayé de dire au moment où ce parti pris normatif commençait à émerger et à devenir dominant avec Malherbe et après Vaugelas, il y avait des gens qui disaient mais attendez, arrêtez de légiférer comme ça, il fallait parler. C'était une grammaire qui s'est faite par rapport à l'écrit et même par rapport aux écrivains, vous voyez, au plus littéraire de l'écrit. Donc les gens qui parlent vraiment à côté, c'était minoritaire.
Bernard Cerchiglini.
Oui, et Julie, vous avez raison de citer Marie de Gournay. Marie de Gournay, qui a été mise de côté.
Oui.
On voit bien qu'après 1640-1650, des hommes prennent le pouvoir sur la langue, l'académie, les grammairiens, éliminent Marie qui passe pour un bas bleu parce qu'elle défend l'ancienne langue, la variété, et on passe à la norme pure et dure qui s'installe.
Et au passage, évidemment, en excluant les femmes de tout ce processus, on les exclut du lexique en supprimant le féminin de fonction jusqu'aux années 70, on va dire.
Bernard Cerchiglini, j'aimerais qu'on revienne à l'usage. C'est l'usage qui a tranché entre le et la Covid. Il y a eu une foire d'empoigne au tout début de la pandémie, et d'ailleurs la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, pourrait en témoigner. Finalement, c'est le Covid qui s'est imposé.
Très bon exemple.
Et au début, il y avait des auditeurs qui nous écrivaient en disant mais non, faut dire la Covid alors que l'usage ne s'était même pas encore installé.
Bien sûr, et très bon exemple. L'Académie française tout au début a fait une déclaration expliquant qu'il fallait dire la Covid, mais l'usage ne l'a pas suivi. Et la médiatrice de Radio France, hésitant, nous a tous les trois demandé notre avis. Et notre avis, c'est que l'usage masculin est général. Et donc, il faudra suivre l'usage et non pas la prescription de l'Académie. On a un très bel exemple d'usage qui prévaut, ce qui est normal dans une langue.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Hélène Carrère-Dancos a proposé de dire la Covid en suivant une règle qui était pratiquée au Québec, alors que ça faisait 3 mois. Déjà, qu'on disait le Covid. Donc, elle arrivait trop tard. Mmh. Et tout ça, c'est des questions de timing. Je suis sûre qu'elle l'aurait dit 2 semaines après. Voilà. Et pourquoi cette règle, en plus, était assez contestable. Donc, c'était vraiment un coup d'autorité pour rien. Et en effet, qui n'a pas marché. Mais remarquez que la société est quand même divisée et que des gens, par réflexe de bon élève, disent la Covid.
Oui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement, outre le débat, la Covid, effectivement, c'est ce débat et la réaction bouillonnante tout de suite, comme vous disiez avec la médiatrice, c'est effectivement tout de suite, c'est pas l'affaire Dreyfus, mais la France divisée en deux, c'est presque ça. Non, mais ça prouve à quel point effectivement il y a un coefficient affectif très fort sur tout ce qui touche notre langue.
Allez, dans quelques instants, nous répondrons à vos interrogations sur la langue française. Pourquoi le premier E du mot femme se prononce-t-il A ? Ce sera juste après le cinéma de Claude Nougaro à 10h24.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un grand plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches, je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va et je t'emmène au cinéma.
Cher Claude Nougaro, le cinéma.
Égérie,
grand bien vous fasse.
Algérie.
Ali Rebéi.
Si, je sais ce que ça veut dire, si. Je l'emploie pas tous les jours, moi. Bon, ben ça va, t'as pas à nous faire un cours de français non plus, non?
Sur France Inter.
Et ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur la langue française. Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Alors Julie Neveu, je rappelle que vous êtes linguiste et dans le hors-série du point bien s'exprimer, vous dites que les fautes de français ont parfois une utilité. Vous dites que souvent les fautes permettent de mieux exprimer ce que l'on ressent.
Oui, c'est-à-dire qu'on parlait avec la journaliste qui m'interviewait des fautes de registre aussi, notamment par exemple si les jeunes aujourd'hui disent déter pour dire je suis motivé par exemple. Ouais. Donc dans une lettre de motivation par exemple, il faut pas qu'ils écrivent je suis déter.
Ça veut dire quoi déter?
Déterminé.
Oui, déterminé.
Je
oui.
suis tellement déter. Voilà. Donc mais par ailleurs, donc ce sont des questions de contexte, des variations, et souvent pourquoi il y a ces deux mots qui existent, qui coexistent dans la langue, pourquoi le lexique est si riche, pourquoi parfois il y a des mots en anglais, c'est qu'à chaque fois il y a une nuance contextuelle et plus d'expressivité lorsqu'on change de mots. Donc si vous dites déter dans un contexte où ça c'est approprié, vous arriverez mieux à transmettre votre émotion, votre expression. C'est plus expressif.
Et je vois bien notre éminent linguiste Bernard Sarcuglini dire « je suis déter ».
Oui, pas vénère. Ben
voilà.
Vous dites une chose très forte, Julie Neveu. Vouloir à tout prix bien s'exprimer peut parfois être obsolète, néfaste, nuisible et toxique.
Ah oui,
c'est fort, hein?
Ben c'est très fort, mais parce que je suis comment?
Mais vous plaidez pour un nivellement par le bas?
Non, je plaide.
Je fais l'avocat du diable.
Hein. Ok, je plaide pour moins de pression sociale et je plaide pour plus de tolérance. Je plaide pour qu'on se sente bien dans la langue. Il me semble que on a besoin de se sentir bien dans la langue. C'est trop triste que la langue soit un endroit où on puisse encore une fois se juger, se déprécier soi-même, se dévaloriser, et que, alors que ça peut être un instrument ludique, poétique, de créativité, que la langue française est parlée par près de 300 millions de locuteurs, qu'il y a des écrivains magnifiques qui écrivent sur tous les continents cette langue, et donc elle est belle, on peut juste être, voilà, et toutes ces variations, toutes ces possibilités ne sont que des possibles à notre arc qui est très riche.
Louise Cuneo du hors-série du Point, pourquoi ne faut-il pas toujours bien parler? Pour vous, c'est un vecteur de faute, cette peur de la faute, justement?
Bah absolument, en fait c'est en discutant avec Bernard Sarcuglini et Julie Neveu que je m'en suis rendu compte, en faisant ce hors-série. C'est ce que dit Julie très bien, bien s'exprimer c'est avant tout l'efficacité de la langue à partager ses émotions. Donc si on n'est pas naturel, si on ne laisse pas la fluidité de la langue couler d'elle-même, eh bien en essayant de forcer son langage, on ne va pas dire ce que l'on pense et on ne va donc pas communiquer ses émotions, alors que c'est là même la fonction du langage.
En fait, c'est exactement la même chose quand on descend un escalier. Vous savez, c'est des automatismes profonds, naturels. Et d'un coup, vous interrompez parce que votre esprit critique dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et là, vous vous cassez la figure.
C'est vrai.
Donc c'est exactement pareil. Si on réfléchit, si je me dis « mon Dieu, est-ce que je suis à France Inter ? Il ne faut pas que je fasse de fautes. » Là, je vais faire des fautes, c'est sûr. C'est sûr.
Il y a une insécurité linguistique qui peut être nocive. Et notre rôle, c'est de la combattre. Alors, rappelons la différence entre l'oral et l'écrit en français. Pour l'écrit, c'est plus difficile, parce que l'écrit, c'est vraiment l'ordre de la faute religieuse, et donc il convient de maîtriser l'orthographe. En revanche, pour l'oral, il convient d'expliquer aux personnes, aux locutrices, aux locuteurs, qu'il y a de l'émotion, il y a du lyrisme, il y a éventuellement du pathos, il y a de la conviction, et qu'on peut avoir une langue beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue, changer de registre, ne serait-ce que pour convaincre davantage. Il y a toute une pratique de l'oral à rappeler, qui a été un peu négligée car notre grammaire a pendant des siècles été fondée seulement sur l'écrit. Regardez le rôle de la dictée, c'était de l'orthographe, à l'école, démesurée. L'école devrait davantage apprendre la maîtrise de l'oral, l'éloquence.
Nous accueillons Christophe. Bienvenue Christophe, vous appelez de Marseille.
Merci,
vous allez
bonjour.
Bien tout va bien?
Oui, tout va bien, merci.
Bon, alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour?
Alors moi, j'écoute votre émission, vos intervenants, et je fais un parallèle entre la langue française et la musique. Mmh. Et quand on écoute une chanson ou un morceau de musique que l'on connaît qui a des fausses notes, tout de suite, ça nous paraît dissonant à l'oreille, et on corrige la fausse note ou le chanteur ou la chanteuse qui chante faux. Immédiatement, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en français, je pense que c'est la même chose. Donc, j'entends vos intervenants parler de peur ou de raisons peut-être psychologiques de faire des fautes, mais ça me paraît tout simple. En fait, c'est parce que quand on fait une faute, c'est déjà on peut faire une confusion entre deux significations, et puis c'est peut-être pas. C'est comme un morceau de musique qui a des fausses notes, où il y a des fausses notes, voilà.
Bernard Cerchiglini, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Nous parlions d'esthétique, on pourrait dire d'harmonie. Une faute de français fait souffrir et on la corrige presque par réflexe. Le français est une curieuse langue dont les pratiquants ne cessent de se corriger et de corriger les uns les autres.
Moi, pour poursuivre la métaphore musicale, j'aime bien imaginer que le français, c'est comme un immense orchestre dont on serait tous les instrumentistes, mais simplement, il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est plutôt ça, moi, que j'essaie d'apercevoir, de conceptualiser, c'est comment tous ensemble on peut parler sans avoir l'impression que quelqu'un fait une fausse note, parce que ce serait son usage particulier, l'usage de quelques-uns, et que les autres acceptent que peut-être cette nouvelle musique est agréable aussi.
Louis Cuneo, Christophe, faisait un parallèle avec la musique, il y a beaucoup de chansons françaises qui sont bourrées de fautes de prononciation ou de syntaxe et qui sont absolument magnifiques.
Absolument, Ali. Et d'ailleurs, ça vient d'auteurs qui souvent sont réputés pour leur bonne expression française. Quand on prend Georges Brassens, par exemple, dans la chanson La première fille, qui dit « Jamais de la vie, on ne l'oubliera », la première fille qu'on a pris dans ses bras, on s'en rend pas compte forcément dans la première écoute, dans le flux de la musique, mais c'est évidemment l'accord du COD qui doit être fait, qui est placé avant l'auxiliaire avoir, et donc c'est la première fille qu'on a prise dans ses bras. Et des fautes comme ça, il y en a partout dans la chanson française, et on s'en accommode bien aisément une fois que c'est chanté avec talent.
Et Léo Ferré dans Les Tziganes. Quelle faute as-tu commis pour devoir marcher ainsi aux Tziganes, aux Tziganes? Assez malheureux.
Merci Christophe d'avoir partagé vos réflexions ce matin. Et nous accueillons Gus qui appelle vous appelez des Pyrénées-Orientales. Bonjour Gus.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. Moi je voulais réagir sur la diversité du français et des particularités régionales ou qui peuvent paraître être des fautes, mais qui finalement sont ancrées dans l'usage à certains endroits. Et moi, je suis originaire de Saint-Étienne à la base. Alors maintenant, j'y habite plus du tout. Et avec mes études, j'ai voyagé. Et j'avais des formulations où les gens me regardaient avec des grands yeux en se disant que je ne savais pas parler français, alors que c'était très courant à Saint-Étienne. Et par exemple, quand on fait tomber quelque chose à Saint-Étienne, on dit pas « j'ai fait tomber mon stylo », on dit « j'ai tombé mon stylo ». Et ça, du moins, même mes instituteurs disaient ça, voilà. Et donc les gens me regardaient un peu horrifiés par quand je disais « j'ai tombé un objet ». Et en fait, moi, je trouve ça beau quand je découvre des nouvelles formulations de gens d'autres régions qui disent des choses qui vont un peu me taquiner l'oreille. Et en fait, du coup, la diversité, je trouve que c'est une richesse de la langue française plutôt que de tout uniformiser, ce qui est un peu la tendance à avoir un français standard en France de partout. Et voilà, et toutes ces petites particularités, c'est un peu le sel de notre langue.
C'est joli ce que vous dites, ce français qui taquine l'oreille. Julien Soulier.
Oui, on en revient un petit peu à ce qu'on dit au début, c'est-à-dire il y a une espèce de jacobinisme linguistique, de centralisation très forte du français. C'est Paris qui domine, donc c'est la norme standard, c'est le français de Paris. Mais c'est vrai que c'est très dommage. Moi, toute ma famille est du Sud et j'adorais leurs expressions, les mots qu'ils utilisaient. Quand je suis arrivé dans le Nord, j'ai entendu la wassingue, la drache, voilà, des choses comme ça, des termes que je me suis approprié, que j'utilise encore. Et c'est vrai que c'est dommage de perdre tout ça, parce que le français, ça n'est pas le français de Paris.
C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, venant de Toulouse, quand je disais moins, j'en veux moins, oh là là, je me faisais taper sur les doigts. On dit pas moins, on dit moins.
Mais ça rejoint l'accentophobie un petit peu.
La gloutophobie.
Ouais, et qu'on a pu voir, par exemple, à l'égard du Premier ministre.
De voilà, Jean Castex, qui a un accent gersois. Ouais,
Ben c'est ça, voilà, donc cette accentophobie qui fait qu'on méprise quelqu'un en raison de sa diversité linguistique.
Nous croyons que le français, c'est la norme parisienne. Le français, c'est un système très général d'une langue mondiale. Ouvrez la grande grammaire du français dirigée par Anna Beillet, Daniel Godard, 3000 pages. Elle montre que le français est logique dans son développement mondial et permet des variations. Regardez, tomber. Dans la norme parisienne, on tombe quoi ? La veste, le pantalon, éventuellement les filles. Mais on peut avoir tombé avec d'autres compléments, comme à Saint-Étienne. Ce qui fait que les variations sont légitimes, elles sont normales, elles sont logiques au sein du système. Il ne faut pas, je répète, penser que le français se réduit à une norme parisienne.
Julie, je ne sais pas si vous tombez les hommes, mais...
mais en permanence.
Et la chemise aussi.
Tout tombe. Non, je voulais dire que c'est, en effet, je voulais dire comme Bernard, c'est intéressant parce que nous, on a quand même, j'ai tombé la chemise, j'ai tombé. Donc peut-être, je savais pas que c'était stéphanois. Et non, et je trouve ça merveilleux que Gus ait cette attention et cette tolérance. Et pourquoi? Parce que lui vient d'un endroit où, en effet, il connaissait la coexistence. Je pense vraiment qu'il faut qu'on ouvre nos esprits. Vous voyez, tous les pays en Afrique, on n'aurait jamais l'idée, tous ceux qui parlent français, qui sont très nombreux, n'auraient jamais l'idée d'être là dans le jugement, puisqu'ils ont beaucoup d'autres langues qu'ils maîtrisent au même point. Et donc, ça, c'est la sagesse, en fait, de pouvoir relativiser. Il faut sortir de cet absolu, de ce point de vue unique et réducteur.
Et je me permets d'insister, le français est une langue forte, solide, mondiale, avec un système très solide. 300 millions de personnes la parlent, donc il n'y a aucun risque. Nous devons accepter toutes ces variations au sein du système. C'est la richesse de la langue.
Merci beaucoup Gus de nous avoir appelé ce matin au 01 45 24 7000. Alors venons-en à l'acmé de cette émission. Pourquoi le E se prononce-t-il A dans femme ou dans évidemment? C'est l'une des questions que vous posez, Julien Soulier, dans votre livre. Voilà, c'est à vous.
Oui, ça m'arrive comme ça de me poser.
Pourquoi on ne prononce pas femme? Pourquoi?
Je rends hommage à ma belle-mère. Entre les midis, comme on dit dans le Nord, à Valenciennes, on dit entre les midis pour dire entre midi et deux. Voilà, donc encore une variation régionale charmante. Il se trouve que ce dont il faut avoir conscience, on l'a dit plus ou moins, c'est que, en gros, l'orthographe française a à peu près 500 ans de retard sur la prononciation, plus ou moins. Et donc, on devrait écrire femme peut-être F-A-M-E. Ça vient du latin femina. Et ce qui s'est passé, c'est que en ancien français, on a dit, il y a eu un phénomène de nasalisation, on a dit femme. Mm-hmm. Au passage, on a rajouté un M justement pour à la fois garder cette nasale en et ensuite le second M. Donc on s'est retrouvé avec femme. De même que bon a donné au féminin, on devrait l'écrire avec un seul N, on l'écrit avec deux N parce qu'on disait bonne. On prononçait un tout petit peu le final. Et puis à partir du 16e, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu le contraire, un effet de dénasalisation, si vous arrivez à prononcer ce mot. Et donc, eh bien, en, quand on le dénasalise, ça devient âme. Ah. Et donc, que ce soit en écrit A-N ou en écrit E-N ou E-M, eh bien, en dénasalisant le en, ça fait A, donc on s'est retrouvé avec femme. C'est le même phénomène que l'on retrouve dans solennel, et surtout avec dans la tripotée d'adverbes en ment, en amant, méchamment, bruyamment, évidemment. Tout cela, on disait évidemment, et puis c'est devenu évidemment. Cela dit, une fois encore, variation régionale, mes amis, moi, dans le sud, à Montpellier, continue à dire la grand-mère pour dire la grammaire et il me souhaite chaque année la bonne année. La bonne année.
Oui, c'est vrai.
À Toulouse aussi, la bonne année.
Bah, oui. Julie Neveu, une petite réflexion, ça me fait rire.
Voilà
la parisienne.
Bon, alors, pourquoi l'une de mes nièces n'arrête pas de dire des chevals et beaucoup d'enfants d'ailleurs, peut-être qu'ils nous écoutent en ce mercredi et en ces vacances. Bernard Cerchiglini.
C'est logique.
C'est
un
logique.
Cheval, des chevals, ouais. Naturellement.
Parce qu'on dit bien.
Une jument, des juments.
On dit bien festival, des festivals, on dit pas des festivaux.
Et tout simplement parce qu'au XIIe siècle, le L suivi d'une consonne est passé à U. Bon. Ah. Dans tous les cas, hein, molt a donné mou, et cheval suivi d'un S a donné chevals. Le L est passé à U, chevaos et chevaux. Donc c'est un phénomène phonétique, régulier dans la langue. Un cheval, des chevaux. Mais pourquoi on ne dit pas un festival des festivaux? Parce que le mot festival a été importé beaucoup plus tard, à l'époque où le phénomène avait disparu. Donc, un chacal des chacals, un festival des festivals, ce sont des mots récents, mais tous les mots anciens, journal, cheval, etc., ont subi ce phénomène d'évolution phonétique. Et voilà.
Et voilà.
Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on voit les enfants, quand ils sont là à essayer d'ingérer toutes ces exceptions, en fait, toutes ces difficultés, eux, ils retiennent d'abord une règle d'alternance. Donc, le masculin, le féminin, c'est une règle profonde qui structure la langue française. Donc, moi, mon fils, il dit médecin et médecine, le médecin et la médecine. Et très je ne le corrige pas parce que je trouve ça très mignon. Je me dis, il aura sa désillusion un peu plus tard. Vous voyez, mais quand même, mon Dieu, quand même, tout ça, sans le comprendre, c'est beaucoup, c'est très dense.
Julien Soulier, pourquoi le genre de Jean, J-E-N-S, G-E-N-S, pose autant de problèmes? Pour vous, c'est le substantif le plus étonnant de notre langue.
Oui, parce qu'alors il y a une règle, mais enfin, je pense qu'à un moment donné, il y a des grammairiens qui ont, des problèmes conjugaux, quelque chose, ils se sont vengés sur la langue française.
Oui,
il y a eu quelque chose de cet ordre-là. C'est ça, il y a eu quelque chose, cet ordre-là, qui ont fait qu'ils se sont vengés d'une manière ou d'une autre sur la langue française. Et bon, j'exagère un petit peu, mais le nom Jean est évidemment caractéristique, typique de ces règles hyper capillotractées, qui veut, alors en l'occurrence, la règle qui veut que l'adjectif placé immédiatement devant se mette au féminin et tous les autres, enfin si, dans tous les autres cas, on met au masculin, si bien qu'on se retrouve avec étonné ES, virgule, ces bonnes gens sont furieux. Donc là, on devient schizophrène complètement linguistiquement. Donc là, c'est dû aussi à des hésitations déjà en latin, donc ça vient du mot gens en latin qui signifiait la lignée, la famille, qui a donné rente en espagnol, enfin c'est la racine indo-européenne de la naissance, de la génération, donc c'est une racine qui est peut-être une des plus productives dans les langues indo-européennes. Et puis donc on avait gens en latin, ça a évolué en Jean au singulier G-E-N-T qu'on retrouve dans la Jean féminine que normalement, alors les puristes conseillent de prononcer Jean et pas Jante. On pense un peu à une roue, à une voiture. Donc la Jean féminine. Et puis il y a eu un phénomène qui a fait que au pluriel, quand on avait des termes comme ça qui se terminaient par une consonne muette, la consonne muette disparaissait. Rebaladez-vous dans les catacombes, vous verrez ossement, des ossements sans le T. C'est pas une faute, c'est que jusqu'au 19e, on a supprimé ce T final devant un S. Donc on s'est retrouvé avec les gens, G-E-N-S. Et dès le latin, le mot gentes au pluriel désignait une troupe d'hommes. Donc une troupe d'hommes plutôt masculin. Sauf que la gens, la lignée, c'était féminin. Voilà, donc il y a eu ce combat, ce débat entre les deux genres. Et puis, ben, évidemment, les grammairiens n'ont pas su trop trancher. Et donc, on s'est retrouvé comme ça avec ces hésitations sur le genre.
Julie Neveu, dans le monde, il existe une centaine de langues qui possèdent deux genres ou plus.
Oui, en fait, il y en a pas tant que ça.
Notre langue est très genrée.
Voilà, notre langue est très genrée. Il y en a beaucoup qui se passent de cette façon de découper la réalité. Parce qu'il faut bien voir qu'est-ce que c'est que cette information sur le genre. Bah, c'est une information qu'on a décidé, enfin, que le français donne à propos des individus, des référents qu'elle désigne. Et elle n'est pas nécessaire, obligatoire. Plein de langues s'en passent très très bien. Il y a des langues qui préfèrent parler de l'inanimé contre l'animé, du vivant contre le non-vivant. Donc c'est intéressant, c'est toujours pour relativiser que j'essaie de faire apparaître ces faits.
Tiens, un petit débat, juste pour le plaisir.
Il y a quelques jours, le petit Robert a fait entrer le pronom « iel » dans son dictionnaire. Pour vous, Pauline Clément, c'est une avancée ?
Oui, ça faisait longtemps qu'on se battait pour. Et en termes de reconnaissance des minorités opprimées, on ne s'attendait pas à voir Robert s'engager avant Larousse.
Et moi, je pense qu'il s'agit d'un virus qui contamine la langue française. Et que la dernière fois que trois lettres ont donné des propos aussi incohérents, c'était par les défenseurs du LSD.
Bon, je vous laisse débattre entre vous. Julie Neveu.
On a déjà débattu pas mal. Moi, j'ai subi une petite petit lynchage médiatique à ce propos du YEL que je venais non pas nécessairement défendre, mais du moins expliquer. Mmh. J'essayais de faire relativiser les gens qui étaient offusqués, qui utilisaient un lexique, comme vous l'avez entendu là, de puriste typique, c'est-à-dire avec une notion de faute morale. Calomnier, souiller la langue, j'entendais tout ça. Mmh. Et donc j'essayais d'expliquer qu'en fait, à quoi sert un pronom en général. Donc un pronom, il est synthétique, c'est une forme très synthétique qui permet de reparler de quelque chose, de quelqu'un dont on a déjà parlé, et il donne déjà très peu d'informations en général. Et il y a d'autres pronoms qui ne donnent aucune information sur notre genre. Genre je, nous, vous, tu, on. Exactement. Mmh. Donc, YEL...
qui désigne celles et ceux qui ne se reconnaissent ni dans le masculin, ni dans le féminin.
En fait, il a plusieurs emplois, c'est-à-dire qu'au singulier, il peut servir et vraiment faciliter l'existence de personnes qui, en effet, ne se reconnaissent pas dans le masculin ni le féminin. Donc ça, c'est au singulier. Moi, j'ai des étudiants qui me demandent depuis plusieurs années de dire YEL pour parler d'YEL. Okay, mais il y a aussi une façon plus égalitaire de parler des couples mixtes, par exemple. Mes parents sont venus hier, YEL était en forme. Alors, ça, c'est vrai que ça choque beaucoup, on n'est pas habitué, mais pourquoi pas.
Et pourquoi on n'utiliserait pas au lieu de YEL le on qui permet de ne pas genrer, de trouver un nouvel usage au on, Bernard Cerchiglini?
Oui, bien sûr, puisque de toute façon le on a eu un nouvel usage, puisque maintenant le on sert à remplacer nous, c'est-à-dire en impliquant le locuteur. On pourrait utiliser le matériel de la langue en le faisant évoluer. Ce qui serait plutôt ma position que la création ex nihilo d'un pronom qui pose des problèmes, changer la grammaire. De cette façon est délicate. Mais j'ajouterais, Julie l'a dit tout à l'heure, le français est une langue très genrée. Il est donc particulièrement difficile d'introduire du neutre. D'où la querelle dont Julie a été regrettablement victime.
Regrettablement, bien évidemment. Et Julien Soulier ne va pas se mouiller sur YEL.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Oh, Julien
Bon, ça nous arrange parce qu'on est un petit peu en retard. À 10h46, il est l'heure de retrouver Ma vie de parent de Camille Poux-Jelagui.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Alors ce matin, Camille, vous constatez qu'on a tendance à vouloir laisser choisir les enfants.
Ah, sauf pour l'orthographe apparemment. Ah oui, hein. Ça commence dès le matin avec le casse-tête de l'habillage car la petite préfère mettre une robe alors qu'elle a sport. Alors pour éviter les frustrations quotidiennes, on débute le jeu du donnant-donnant qu'on pourrait aussi appeler du chantage. Laissons-leur de petites victoires pour gagner du temps. Ils peuvent mettre leurs chaussettes préférées. Car même si ce n'est pas très académique, c'est pratique, ça détourne l'attention, ils lâchent leur Lego et leur donnent l'illusion qu'ils choisissent. Mais comme il est dur de se défaire du réflexe de « on propose, il dispose ». Rien à faire, quand l'heure du goûter arrive, on leur demande inévitablement s'ils souhaitent une pomme avec deux N ou une banane.
Alors c'est bien connu, Camille, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Parce que les parents n'acceptent plus de laisser leurs enfants explorer d'autres émotions que la joie continue. C'est la babycratie, désolé pour décrite par le psychopédagogue Bruno Humbeck. Mais si on veut vraiment leur bonheur, pensons que ça les soulage de ne pas décider de tout. D'abord parce que choisir, c'est renoncer. Et ça, ils auront tout le temps de l'expérimenter. Deuxièmement, parce que l'enfant choisira plus spontanément ce qu'il connaît déjà. Et ça ne fera pas pour autant des adultes dépourvus de raison ou d'ambition. Enfin, parce qu'il est plus reposant de ne pas choisir, pour éviter le stress de l'hyper-choix, la peur du regret. Et car c'est bien connu, la glace à la vanille du voisin est toujours meilleure. Et à l'inverse, quelques années plus tard, on reprocherait à nos ados de répondre « je sais pas » dès qu'on propose quelque chose. Mais comme cette indécision est charmante, parce qu'on aime les gens qui doutent, hein, mais ça Anne-Sylvestre nous l'a déjà chanté. Et puis combien d'adultes, de femmes diraient certains, ne savent pas choisir leurs vêtements à la maison ou attendre que tout le monde ait commandé au restaurant pour trancher dans un menu trop appétissant. Et c'est là où les coachs et les psys font leur succès, pour nous guider dans ce dédale de décisions. Finalement, ce sont bien nous les parents qui n'ont pas le choix. Bon élève, on est coincé par la lecture d'articles tels que « 10 erreurs à ne pas commettre avec vos enfants ».
Alors du coup, quelle marge de manœuvre reste-t-il ?
Face à ces injonctions contradictoires, comme les petits ne sont pas encore dotés d'un raisonnement adapté à chaque situation, le mieux est de se faire confiance, car on sait ce qu'il y a de meilleur pour eux. En l'occurrence, la compote pomme-fraise, ça c'est le choix du roi. Prenez ce conseil déroutant de ne pas laisser pleurer les bébés. On sait aujourd'hui qu'en couvrant son enfant, on ne lui donnerait pas de mauvaises habitudes, mais nous répondrions à ses besoins en lui donnant confiance pour mieux les guider vers l'autonomie. Alors ok, bébés, ils choisissent, mais il ne s'agit pas de caprices. Mais bien sûr, l'ancienne génération dirait plutôt « Mais laisse-le pleurer, tu le prends trop dans tes bras !» Ou encore « Il n'y a pas d'enfant qui pleure trop fort, il n'y a que des appartements trop petits !» Plus tard, faut-il forcer à terminer les courgettes avant de sortir de table? Apparemment non, c'est contre-productif, ça les bloque et c'est un peu tyrannique. Enfin, quand ils ne veulent pas partir en colo, faut-il les laisser choisir? Bah sûrement pas, car le plaisir au retour peut être au-delà de leurs espérances, et puis pensons aussi à nous. L'idée serait de ne pas placer la satisfaction de l'enfant au-dessus de celle de l'adulte. Tout le monde est content quand ils partent enfin en colo.
Alors ce sont les parents qui choisissent finalement?
Eh oui, in fine, c'est à nous parents qu'il incombe le plus grand choix. Est-ce que l'éducation positive donne des enfants tyrans qui ne supportent pas la frustration? Ou exercerions-nous une autorité parentale abusive dans le cas contraire? Une fois plus, il faut se faire confiance mutuellement, on est une équipe. Bien sûr, ce qui compte, c'est qu'adulte, il choisira son travail, son amour. Et au final, tant pis s'il se trompe, tant qu'on ne les trompe pas. Certes, il doutera, mais là, quand on voudra leur donner notre avis pour l'aider dans ses choix, il ne nous écoutera vraiment plus.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balance.
Ah, Sylvestre, on pourrait l'écouter des heures. Merci beaucoup Camille Poux, Jeanne Aguier, Ma vie de parent, à podcaster et à partager sur les réseaux sociaux, sur l'appli France Inter. Dans un instant, vous verrez s'il est fautif de dire « je travaille sur Brest » ou « on est sur un suprême de volaille ». Ça, on l'entend beaucoup dans l'émission Top Chef. Ce sera juste après November Ultra qui interprète Le Manège à 10h51. Interpréter Le Manège.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur la langue française. Hein, standard ouvert au 01 45 24 7000. Julien Soulier, je rappelle que vous êtes un ancien professeur de lettres et que vous publiez les pourquoi du français. Pourquoi dit-on de plus en plus « je travaille sur Nantes, je travaille sur Brest » et pourquoi dans Top Chef ou dans d'autres émissions culinaires ou bien dans certains restos, on entend « on est sur un suprême de volaille, on est sur une purée de rutabaga » Comment expliquer cette invasion de la préposition « sur »
Parce qu'on est sur un tic de langage, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que, toute chose égale par ailleurs, on a un petit peu le même phénomène avec « en ». On va en pharmacie.
Vous l'entendez ça?
On va en extérieur.
Ah oui.
On dit plus à la pharmacie, ou on disait en mairie, mais là, c'est vrai que. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est souvent en retraite. On part plus à la retraite, on part en retraite.
Comment vous l'expliquez?
Ben là, alors, Julie, je crois, l'explique très bien dans son livre.
Julie Neveu, pourquoi est-ce qu'on est agacé par ces tics de langage alors que vous êtes beaucoup plus indulgente avec nos tics de langage?
J'aime les tics de langage parce que je trouve qu'il montre qu'on est des êtres humains et pas des robots, non pas des robots. Vous voyez, le robot, le GPS, il va pas vous dire alors là, tu es sur une autoroute. Enfin, si d'ailleurs, il dira ça. Mais prenez donc, c'est clair, à droite ou à gauche. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui prouve nos émotions, qui prouve notre notre nature animale. C'est-à-dire qu'on attrape des tics, c'est des façons de parler qui sont véhiculées dans l'air du temps. Et donc, on se met à dire sûr alors qu'on n'a pas envie de le dire. On se met à dire ouais, c'est clair alors qu'on n'a pas envie de le dire. Donc, je trouve ça intéressant. Après, sûr, ben, il y a toujours eu beaucoup d'emplois, et c'est vrai que c'est nouveau de dire sûr alors que ce n'est pas concret ce qui suit sûr. Et je pense, moi j'ai interprété ça, c'est une hypothèse, hein, mais parce que je repère souvent ce qu'on appelle des invariants sémantiques en linguistique, c'est-à-dire un sens, même si c'est un mot grammatical, et donc là le sens de sûr c'est quand même d'être en surplomb par-dessus. Or je trouve que ça coïncide avec une époque où il y a beaucoup d'experts qui pensent maîtriser des sujets, qui divulguent des infos plus ou moins exactes, et donc il y a vraiment une posture d'expertise.
On peut penser ainsi. On peut ne pas être d'accord. Je trouve qu'au contraire, le tic du langage nous robotise. Une préposition au lieu d'un choix de plusieurs. Le sûr dans tous les cas. Je crois que ce qui est important dans la langue, c'est d'avoir le choix, de choisir, d'être maître de son discours, de le produire. L'éthique de langage, c'est du langage cuit. Moi, j'aime la langue bien crue, le discours cru.
Libre à vous d'en prendre conscience, et les auditeurs d'en prendre conscience. En fait, l'éthique de langage, il passe tout le temps. Donc, en fait, on en prend conscience et puis on les dégage.
Et dès d'ailleurs que l'on en a conscience, ils disparaissent et d'autres apparaissent. Soyons patients, mais restons agacés.
Vous aussi, vous utilisez des tics de langage, Bernard Cerchiglini?
Ah, je me surprends à dire du coup. Ah, oui. Bien sûr. Ouais. Et à chaque fois, je me donne une claque.
Moi, je me donne une petite claque quand je dis c'est clair. C'est clair. Et vous en avez, vous,
Julien? Je ne me claque jamais.
Non.
Je n'ai aucun tic de langage. Mais bien sûr, j'ai du coup en permanence. Ouais.
Mais moi aussi, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que le remplacer par quoi? Par conséquent, qui est quand même un petit peu plus solennel, un petit peu plus l'impression d'avoir affaire à un logicien. Ou alors de ce fait. Mais de ce fait, qui a un côté aussi un petit peu plus peut-être précieux. Donc c'est vrai que du coup, c'est percutant. Il y a deux syllabes. Le mot court, est un mot aussi qui est phonétiquement percutant. Donc, c'est vrai qu'il est quand même très pratique.
Il est pratique et il sert à quelque chose. On l'a mis à l'initiale de nos phrases. Et du coup, on fait quoi maintenant, Ali? Parce que on a besoin de redynamiser la conversation et ça marche pas mal.
Bien joué. Tiens, pour redynamiser la conversation, un dernier pourquoi, Julien Soulier. Pourquoi second ne prend pas logiquement un G second? Pourquoi second avec un C?
Alors, il faut savoir que si vous prononcez le G et le que, vous pouvez essayer chez vous, entraînez-vous, tant pis pour les voisins. Le g et le que, en fait, sont des consonnes qui sont très proches. L'une est sourde, l'autre est sonore. Donc, dès le latin, en fait, il y a eu cette confusion entre le g et le que. D'ailleurs, si vous l'écrivez en majuscule, le c et le g, vous rajoutez une petite que au c et ça vous fait un g. Donc, ce qui fait qu'en latin, on avait aussi bien Caius, Julius Caesar, que Gaius. Et donc cette confusion ou cette confusion s'est perpétuée aussi en français et on s'est retrouvé avec second au lieu de second.
Est-ce qu'il est en train de dire ça?
Louis Cuneo, on termine avec vous. Hein, vous proposez en kiosque un hors-série du Point bien s'exprimer. On y trouve des jeux, des quiz pour s'améliorer, hein?
Alors effectivement, Ali, on y retrouve d'abord les excellentes considérations sur la langue de Bernard Cerchiglini et Julie Neveu, entre autres. On y retrouve des pastilles étymologie de Julien Soulier aussi. On y retrouve une cinquantaine de pages d'exercices pour réviser ses classiques, faire des points de vocabulaire et se libérer des équivoques qui polluent la fluidité de notre langage, puisqu'on l'a bien vu, il faut être naturel pour bien s'exprimer.
En tout cas, c'est très bien fait, c'est très ludique, bien s'exprimer, le hors-série du Point est disponible en kiosque. Merci à tous d'être venus ce matin. Merci Bernard Cerchiglini. Dernier ouvrage paru, Les mots immigrés. J'espère que vous viendrez en parler dans cette émission avec Eric Orsena.
Très volontiers.
Merci Julien Soulier. Les pourquoi du français, c'est passionnant, c'est publié chez First Edition. Merci Julie Neveu. Votre opuscule, la grammaire du français rendue à la vie. La guerre des sexes, un point c'est trop. C'est publié chez AOC. C'est deux livres en un, c'est ça.
Bon, c'est allez. La grand-mère rendue à la vie.
Ben oui, je le dis à la Toulousaine. Je suis désolé, je le dis à la Toulousaine. Demain, comment bien s'entendre avec ses voisins? Vaste programme.